professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio. Comment entrer dans votre cerveau? Non, pas vraiment, mais vous nous expliquez un peu tous les mécanismes, tous les rouages du cerveau. C'est une émission très complémentaire d'ailleurs de neuronutrition avec le docteur Olivier Coudron. On a une docteure en neurosciences et on a le docteur Olivier Coudron, spécialiste de la neuronutrition. Là, c'est un peu différent. Vous nous expliquez vraiment tous ces mécanismes. On est sur les addictions depuis le début de l'année. On va voir avec vous aujourd'hui l'addiction au café. Non, quand j'ai dit l'addition, c'est pas un café l'addition, c'est l'addiction au café avec la caféine comme psychostimulant. Alors qu'est-ce que c'est l'addiction au café, Célia?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on parle de manière générale d'addiction au café. En tant que neuroscientifique, je ne suis pas certaine qu'on puisse aller jusque-là. Moi, je parlerais plutôt de dépendance au café que d'addiction, parce que même si on va avoir évidemment des répercussions communes, des symptômes de sevrage, des symptômes de tolérance, des symptômes donc de manque aussi, bien évidemment, en fait, de sevrage, on ne peut pas dire que le café, en termes de conséquences que nous verrons évidemment dans la troisième partie de l'émission, soit totalement nocif comme ça va l'être pour de l'héroïne, de la cocaïne, voire même le tabac ou l'alcool. En revanche, quand je parle de café, je voudrais englober la caféine, parce que souvent on dit café, caféine, mais on ne pense pas aux autres produits qui contiennent de la caféine, notamment effectivement du thé. Dans le thé, on retrouverait de la caféine ou des molécules apparentées, va-t-on dire. On en retrouverait évidemment dans toutes ces boissons énergisantes que l'on trouve au supermarché, qui sont là pour booster effectivement notre énergie. Donc, je citerai comme exemple, pour ceux qui les connaissent, Monster, le Red Bull. Red Bull donne des ailes, évidemment, il y a de la caféine, mais pas que. Et il y a aussi ce qu'on a connu quand on était plus jeune, en tous les cas moi, le fameux Guronzan. Le Guronzan où, effectivement, on nous donnait du Guronzan pour être un peu plus actif, ce qui contenait de la caféine et, effectivement, de la vitamine C pour nous booster. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, d'abord pour tout ce qui touche à la caféine, c'est qu'il faut faire attention à sa consommation globale. Il faut aussi regarder que c'est pas tellement, on parle souvent de consommation de tasses de café. Il faut aller au-delà parce qu'un espresso n'a pas le même nombre de milligrammes de caféine qu'un café filtre, par exemple. Donc, évidemment, cela va pouvoir changer les effets du café et la consommation de café. Ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules qui sont actives, finalement, dans la caféine, les molécules actives, ce sont les méthylxanthines. Et qu'est-ce que ces méthylxanthines? Quels vont être les effets de ces méthylxanthines, donc de la caféine? Finalement, ça va être d'augmenter toutes les performances cognitives. Généralement, on prend du café, on prend de la caféine pour éviter de s'endormir, pour rester éveillé et aussi pour augmenter ses performances cognitives. Effectivement, il y a eu des études qui ont montré que ça a augmenté réellement ses performances, notamment des études qui ont été réalisées chez des militaires. Alors, des militaires qui n'étaient pas en privation de sommeil avec une consommation de 200 mg. Et on a vu quoi dans les effets? Une augmentation de la détection des cibles, une augmentation de la vigilance, une augmentation de la réaction. Et même en conditions extrêmes, privation de sommeil sur 3 jours, dans des conditions extrêmes de froid, avec des exercices physiques soutenus, là encore, la caféine montre cette augmentation. Donc c'est en ça qu'on risque de devenir dépendant pour augmenter ses performances cognitives, parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, tout le monde dit « Ah, je ne carbure pas sans café le matin ».
Ah oui, est-ce que vous carburez au café le matin, vous?
Oh oui, minimum 3 espressos le matin.
D'accord, d'un autre côté, je vous ai interrompu, pardon.
Non, mais je suis peut-être addict au café, quoique, on va voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le café, ça va évidemment avoir pour conséquence d'avoir un effet anxiolytique. Alors on se dit, mais d'habitude, le café, c'est plutôt anxiogène, ça augmente l'anxiété, ça nous rend... Pas Pas forcément. En fait, c'est anxiolytique chez les personnes qui vont disposer d'une enzyme qui va permettre à ces méthylxanthines, donc la molécule active, d'être dégradée en paraxanthine. Exactement. Je reprends mon terme. Il est où mon terme paraxanthine, etc.
Attendez, arrêtez-vous deux petites secondes là-dessus, parce que là, ça devient un peu technique. Donc, est-ce que vous pouvez répéter cette partie et nous expliquer un peu de ce dont il s'agit ?
Alors effectivement, le café a la caféine a une action anxiolytique chez les buveurs de café. Chez certains, au contraire, c'est anxiogène. Certaines personnes vont dire, moi, je supporte pas le café, ça me rend anxieux, ça me rend irritable, ça augmente l'anxiété. Et en fait, cette différence viendrait d'une enzyme qui permettrait de dégrader les méthylxanthines. Donc, les méthylxanthines, c'est la substance active dans la caféine, c'est celle qui va booster l'énergie, qui va augmenter les performances, mais effectivement, cette méthylxanthine va être dégradée grâce à une enzyme en paraxanthine, en paroxétine. Je vais arriver à le dire. C'est pas facile à dire, en paroxétine. Et c'est ce phénomène de dégradation, si les personnes disposent bien de cette enzyme, que l'enzyme fonctionne bien et que cette dégradation a bien lieu, ça va avoir un effet anxiolytique. Qu'au contraire, si il n'y a pas cette enzyme-là, il peut y avoir un effet évidemment anxiogène. Il faut savoir aussi que l'effet anxiogène de la caféine peut provenir aussi d'une trop grosse consommation de caféine et de café. Au-delà d'un certain nombre de tasses, c'est vrai que ça a tendance plutôt à énerver, à rendre anxieux, et on n'a plus les bénéfices ni sur les performances intellectuelles, ni sur le côté anxiolytique.
Alors, on va comprendre dans un instant les mécanismes de neurobiologiques et biologiques de la caféine. C'est juste après une petite pause, le temps pour Célia de répéter un peu ce mot qui était imprononçable. Allez-y.
Paroxétine. Ben voilà, je vais y arriver.
Paroxétine. C'est pas compliqué. On se retrouve dans un tout petit instant.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Vous reprendrez bien un petit café. Un café, l'addiction, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. On a vu dans la première partie avec Célia Morès ce qu'était l'addiction, si on peut parler d'addiction au café. Quand même de nombreux effets, j'ai l'impression, très positifs, y compris d'ailleurs sur la santé cardiovasculaire. Mais quels sont les mécanismes neurobiologiques et biologiques, Célia ?
Alors, ce qui va se passer, c'est que la caféine est là pour nous maintenir éveillés. Donc, ça va bloquer l'effet d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi ? C'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans la somnolence, dans les effets du sommeil. Vous savez, quand on bâille, quand on sent qu'on a sommeil, qu'on ne tient plus et finalement qu'on s'endort, c'est grâce à l'adénosine. Donc, l'adénosine va se fixer sur ses récepteurs, normalement, A1 et A2. Deux types de récepteurs à l'adénosine. Très bien. Ça se fixe pour qu'on sente l'arrivée, le sommeil, on est fatigué, on s'endort, on dort debout, on va dire, on va coucher. Le café est là pour bloquer l'effet de l'adénosine, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de l'adénosine, il va bloquer cet effet de l'adénosine, l'adénosine ne pourra plus se fixer, et en ne se fixant plus, évidemment, ça va maintenir la personne éveillée. Donc ça, c'est un premier point. Ça bloque l'arrivée du sommeil, ça bloque effectivement cette sensation de fatigue. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que le fait de prendre du café, de la caféine, va potentialiser les effets de la dopamine. Et on sait très bien, si vous avez tous suivi le cycle un petit peu sur les addictions et notamment les mécanismes neurobiologiques sur les addictions, qu'on retrouve aussi en podcast donc sur Nutri Radio, ce qui va se passer, c'est que il y a libération de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est notamment impliqué dans les comportements, la motivation à faire un comportement, voire effectivement le plaisir, c'est comme ça qu'on le caractérise, et c'est le neurotransmetteur clé, notamment impliqué dans les addictions, hein, puisque c'est celui qui procure du plaisir, qui nous motive à faire un comportement, et plus il y a de dopamine libérée, plus on a envie de refaire le comportement. Donc la caféine va évidemment potentialiser les effets dopaminergiques, il va y avoir libération de dopamine, mais effectivement, en prenant la place de l'adénosine, sur ces récepteurs à adénosine, notamment au niveau du fameux noyau accumbens, là où la dopamine est libérée, là où il y a le caractère hédonique de la dopamine, le plaisir, la motivation à refaire le comportement, ce que va faire la caféine, elle va se fixer sur les récepteurs A2 à l'adénosine, à la place de l'adénosine. Donc, ça va potentialiser les effets de la dopamine, ça va augmenter les effets de la dopamine. Parce que si c'est vraiment l'adénosine qui s'y fixe, étant donné que les deux récepteurs à la dopamine et à l'adénosine sont très proches au niveau géographiquement parlant, localement parlant, ça va bloquer les effets de la dopamine. Mais si c'est pas l'adénosine qui se fixe sur son récepteur, mais la caféine, au contraire, ça potentialise les effets de la dopamine. D'où le fait, évidemment, qu'on peut parler d'addiction, puisqu'il y a une augmentation, une potentialisation de cet effet dopaminergique. Et évidemment, ça explique aussi les effets de la caféine sur le sommeil. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. On aurait un gène qui pourrait être impliqué dans l'addiction café. Ce gène, son nom, son petit nom, c'est le PDSS2. Et suivant si on a ce gène ou pas, on va pas effectivement réagir de la même façon au café. C'est-à-dire que si on a ce gène, on va avoir tendance à dégrader le café beaucoup plus difficilement. Donc le café, la caféine qui mettra plus de temps pour être dégradée restera plus longtemps, en fait, aura un effet plus long et probablement que ces personnes consommeraient moins de café.
Ah oui, le gène oui. PDSS2.
Oui, il y aurait un rapport entre les deux et apparemment, si on l'a, il y aurait un problème de dégradation de caféine. Enfin, elle mettrait plus de temps à se dégrader. C'est ce que j'ai pu lire dans les études. À voir après s'il ne trouve pas un effet éventuellement inverse un jour. Mais en tous les cas, ce gène aurait été répertorié pour éventuellement avoir un effet sur l'addiction au café et les comportements de dépendance, va-t-on dire, à la caféine.
Comment on fait pour savoir si on a ce gène PDSS2?
Alors, à part faire un screen de l'ADN génétique, de faire une prise de sang et qu'il regarde tous les gènes qu'il peut y avoir, si on a le gène ou pas, comme on le fait par exemple lorsqu'on a eu un cancer, qu'on veut voir s'il y a une vulnérabilité génétique, on nous fait une prise de sang et il y a certains gènes qui vont être screenés pour vérifier si on les a. Si on a certains gènes, on nous dit qu'on est vulnérable génétiquement. Ah, donc il faudrait faire une prise de sang, regarder, mais je ne suis pas sûre que médicalement c'est un intérêt réel, parce que finalement ça va se traduire par quoi? Par une sous-consommation de café chez certains, une consommation peut-être un peu plus importante chez d'autres, mais tant qu'il n'y a pas de comportement totalement nocif et qu'on ne peut pas agir dessus, je ne suis pas sûre que les médecins accepteraient de screener, puisque ça a quand même un certain coût financier, l'ADN pour vérifier si ce gène était présent.
Oui, c'est vrai, vous avez totalement raison que peut-être l'intérêt n'est pas non plus dingue. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la suite de cette émission avec Célia Morès sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
L'addiction au café, cette semaine, on en parle avec Célia Morès. On a vu ce que c'était dans la première partie. Juste avant la pause, vous avez évoqué les mécanismes neurobiologiques et biologiques. On va évoquer maintenant les conséquences. C'est quoi les conséquences d'une addiction au café? Parce que visiblement, ce que vous nous avez dit en première partie, c'est plutôt pas mal.
Alors effectivement, il y a de bonnes conséquences, au contraire, puisque d'ailleurs, le café, on le prend un petit peu pour ça, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, ça va être plutôt dans l'abus de consommation. Alors, faut savoir qu'est-ce qu'un abus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un abus de consommation de café. Généralement, c'est si on dépasse les 400 mg de café. Si on dépasse les 400 mg de café, ça va être problématique. C'est-à-dire que, par exemple, le côté anxiolytique de la consommation va être probablement remplacé par un côté anxiogène. On va avoir effectivement probablement des troubles de l'humeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au-dessus de 400 mg, ça pose problème. On peut avoir une espèce de confusion et c'est anxiogène. Au-delà de 1000 mg, c'est là vraiment qu'on a une confusion. On peut avoir une confusion mentale. C'est énorme, hein, 1000 mg de café. 400 mg, c'est 3-4 tasses. Hein, donc, ça dépend du type de café qu'on consomme. Quand on consomme des expressos, c'est 80 mg. Je crois que le café filtre, c'est dans les 100 ou 150 mg. Donc, quand même, il faut y aller. Mais effectivement, on va parler en fait de caféisme. C'est pour ça qu'on parle parfois d'addiction au café. Certains l'ont appelé, les addictologues, enfin les spécialistes de cette question caféisme. Et on va avoir des effets négatifs, c'est-à-dire on va avoir des troubles de l'humeur. On va avoir effectivement une augmentation de la fréquence cardiaque, qui peut être problématique chez les personnes qui supportent pas la caféine. Elles ne peuvent pas justement, enfin qui ont des problèmes cardiaques, elles ne peuvent pas prendre de caféine en raison de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Mais évidemment, plus on en consomme, plus chez une personne qui n'a même pas de problème cardiaque, ça va augmenter ses fréquences cardiaques. D'ailleurs, on le ressent quand on a trop pris de café, on est un peu sur les nerfs, sur les dents, vous savez, on est un peu en train de sauter partout, on est très irritable, on devient très nerveux et on a parfois du mal un petit peu à respirer et donc parfois même du mal à se concentrer parce qu'effectivement, le cœur, quelque part, bat trop vite. Ça va être important. On va avoir donc l'irritabilité. On va avoir aussi peut-être des troubles gastro-intestinaux. On sait que le café, effectivement, a un effet antidiurétique, un effet probablement aussi qui a été démontré laxatif. Donc, ça pourrait, avec une trop grosse consommation de café, peut-être provoquer des problèmes au niveau des intestins, des problèmes digestifs. Ça a été montré dans les études. Après, c'est toujours à prendre avec précaution parce que c'est peut-être pas la seule chose incriminée chez les personnes qui en consomment. Il faut toujours faire attention avec les études en nutrition. Il va y avoir aussi, c'est là où on parle d'addiction, c'est qu'on va avoir des symptômes de sevrage. Sauf que là où je disais que moi, je parlerais plutôt de dépendance, c'est que les symptômes de sevrage ne sont pas aussi importants qu'en cas d'addiction sévère. Comme addiction sévère, pour moi, c'est héroïne, cocaïne, etc., alcool, où là, il y a des conséquences néfastes vraiment pour l'organisme avec une toxicité importante. Finalement, le sevrage que l'on va ressentir pour le café, on l'a tous ressenti. C'est-à-dire, pendant la semaine, on va consommer un certain nombre de cases de café parce qu'on veut être actif, qu'on veut répondre aux sollicitations de l'extérieur, parce qu'on travaille et qu'on a besoin d'être finalement très performant. Et puis le week-end, on se laisse aller, on consomme moins de café. Et en fait, il a été remarqué que chez des personnes, justement, on avait remarqué qu'elles avaient des maux de tête, qu'elles se sentaient pas bien le week-end, mais sans savoir pourquoi. Pas de changement d'habitude de vie réelle, elles faisaient du sport, elles avaient une bonne hygiène de vie, il y avait quelque chose qui pouvait expliquer ces maux de tête. Ils se sont rendus compte que c'était à cause de la diminution de la consommation de café. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de sevrage de café, il va se passer quoi ? Lorsqu'on va avoir ça va provoquer quoi ? Des maux de tête, ça va provoquer une fatigue, une somnolence, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à consommer son café, on va être somnolent, on va être fatigué, on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir peut-être même une augmentation d'anxiété, voire des nausées, des vomissements, des troubles de la concentration, qui est dû à ce manque de café. Donc c'est en ça qu'on va avoir une addiction, une dépendance, c'est qu'on va avoir un sevrage au café. Alors effectivement, le sevrage, comme je vous l'ai dit, il n'est pas aussi important qu'un autre. Ça disparaît assez rapidement. Généralement, les troubles de sevrage apparaissent 12 heures après. Donc 12 heures après, on peut commencer à avoir certains troubles de sevrage que je viens de décrire. Il serait au plus haut, évidemment, dans les 24 heures. Lorsqu'on est 24 heures sans café, ça pourrait poser problème. Et ces troubles de sevrage, donc baisse de la maux de tête, baisse de la concentration, fatigue, etc. Et il pourrait durer pendant une semaine et après, évidemment, s'estomper. Et effectivement, je vous engage à essayer, enfin, je vous encourage à essayer de diminuer votre consommation de café et vous verrez que ces petits troubles pourront apparaître, mais évidemment, pourront aussi rapidement disparaître, même si on ne reprend pas la consommation de café, puisque, comme je l'ai dit, moi, je parlerai de dépendance en tant que neuroscientifique et pas forcément d'addiction, mais là, j'avoue que ça n'engage sur ces termes que moi.
D'accord, mais attendez, vous nous conseillez d'expérimenter là tous ces symptômes pendant une semaine. Est-ce que vous-même, vous avez réduit votre consommation de café ? C'est ça qui est intéressant.
Alors, peut-être pas pendant une semaine, mais au moins expérimenter de voir qu'effectivement, le week-end, ce que ça peut faire, ça peut permettre de voir est-ce que, effectivement, j'ai ces symptômes-là ou pas. Après, on peut pas forcément pendant une semaine. Alors moi, à titre personnel, non, je n'ai pas... ça m'arrivait, oui, de diminuer un petit peu la consommation de café quand je sentais justement qu'une trop grosse consommation, cette fois-ci, pouvait me donner des nausées, pouvait me donner des brûlures d'estomac, etc. Donc justement, décider effectivement de diminuer cette consommation de café, ou lorsque j'ai dû faire certains examens médicaux et qu'il fallait que je mette, mon intestin, mon transit au repos, et comme je savais que ça pouvait avoir un effet sur le transit, j'ai évidemment pendant presque une semaine essayé de diminuer au maximum en tous les cas ma consommation de café. Ça n'a pas été évident, hein, parce que quand on a besoin de son café, ne serait-ce que quand on aime le goût aussi, il faut savoir, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que même si on expérimente ça, qu'on a ces symptômes-là, ça disparaît assez rapidement. Donc même à quelqu'un qui, on va dire, t'as plus le droit de boire du café, ce qui pourrait arriver un jour pour des tas de types de raisons, ça va disparaître et c'est pas aussi dur que les autres addictions que je considère comme les addictions dures, des addictions vraies dont les conséquences vont être beaucoup plus nocives. Bon là, c'est des maux de tête, des difficultés à se concentrer. C'est pas non plus, c'est pas non plus la mer à boire, si je puis dire, à ce niveau-là. Mais effectivement, on a parlé d'addiction parce qu'il y avait des symptômes de sevrage, voire de dépendance à la caféine.
Eh bien, merci beaucoup, Célia Morès. C'était très intéressant la manière dont vous nous avez expliqué et décrypté tout cela. Merci vraiment. On retrouve l'émission en podcast. On essaie de faire ça maintenant, juste après. Comme ça, on va le faire quand il est chaud. Si vous êtes sur le live et vous venez d'arriver, vous dites tiens, je vais me faire le podcast en entier. C'est maintenant. Si vous allez sur Nutri.fr dans la partie médias et podcast, vous devriez retrouver l'émission du jour. Et puis, je disais Nutri TV, c'est pas un lapsus comme ça. En tout cas, c'est un lapsus révélateur parce qu'on va retrouver très bientôt aussi Célia Morès en masterclass sur Nutri TV. Vous allez voir, c'est en montage, mais vous avez été brillante, Célia. On en reparle. On incite tout le monde à aller sur NutriTV.fr. Merci beaucoup, Célia.
Merci beaucoup, Fabrice. À bientôt.
On va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer d'explorer les addictions. On va aller un peu plus loin cette fois. Vous allez nous parler d'addiction aux psychostimulants. On n'en dit pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera donc vendredi prochain avec Célia Morès.
La sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.